Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'acromégalie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Lyoté. Professeur Lyoté, bonjour.
Bonjour à tous.
Professeur Lyoté, vous êtes rhumatologue, professeur des universités et praticien hospitalier au sein du service de rhumatologie de l'hôpital Lariboisière à Paris. Et vous êtes également co-rédacteur de la partie complications rhumatologiques du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins sur l'acromégalie, publié en 2022. Alors, professeur Lyoté, on aborde aujourd'hui l'acromégalie, dont les manifestations rhumatologiques peuvent être assez fréquentes. Alors justement, quelles sont les principales manifestations rhumatologiques de l'acromégalie ?
En effet, l'acromégalie s'accompagne de manifestations largement musculo-squelettiques chez un malade sur deux environ, dans les séries les plus récentes. Ces manifestations peuvent être inaugurales et posent alors un problème de diagnostic quand la maladie endocrinienne n'est pas connue, ou bien elles peuvent survenir dans le suivi évolutif de l'acromégalie. Alors, le problème, c'est que il faut qu'elle soit reconnue et il faut qu'elle soit connue avant d'être reconnue, ce qui fait que pour le suivi des patients, il est indispensable que les endocrinologues intègrent les manifestations musculo-squelettiques au même titre que le diabète, par exemple, ou l'hypertension, ou la recherche de polypes coliques. Les manifestations, elles sont de trois ordres. Elles sont articulaires, elles sont neurologiques et elles peuvent être osseuses. Pourquoi ? Parce que l'insuline growth factor, l'IGF-1, va avoir un effet direct sur les cellules du cartilage et sur le tissu osseux. Et ça va donner, bien sûr, ce que l'on observe également sur l'ensemble des autres organes, une hypertrophie. Donc, les manifestations rhumatologiques que nous rencontrons, sont d'une part un syndrome du canal carpien. C'est vraiment un élément clé qui peut permettre de faire le diagnostic. Et donc, finalement, devant un syndrome du canal carpien, que ce soit un rhumatologue, que ce soit un endocrinologue ou un médecin généraliste, on doit toujours rechercher une cause secondaire. Alors, la grossesse, ce n'est pas une maladie, c'est une cause classique de syndrome du canal carpien, mais l'acromégalie, elle fait partie des trois endocrinopathies qu'on doit évoquer systématiquement. Tout le monde connaît le diabète sucré, tout le monde connaît l'hypothyroïdie comme cause de syndrome du canal carpien, eh bien, on y rajoute l'acromégalie. Et pour s'en rappeler, on utilise ADH. L'endocrinologue sait ce que c'est que l'hormone antidiurétique, et le rhumatologue et le généraliste aussi. Donc ADH pour acromégalie, diabète sucré, hypothyroïdie. Et à partir de là, on pose des questions supplémentaires aux patients. Avez-vous une sensation de gonflement des mains ? Avez-vous dû changer de pointure de chaussures ou de gants ? Il faut le rechercher systématiquement. Ça n'est pas simplement une vue de l'esprit du patient, une perception. C'est une réalité, comme vous le savez, avec une prise de 1, 2, 3 pointures de chaussures. Dès lors où on a ce tableau-là, on doit évoquer l'acromégalie et proposer un dosage d'IGF. Alors, on peut avoir en début de maladie des arthralgies mécaniques qui vont évoluer ensuite pour leur propre compte et on arrive sur des tableaux d'arthrose. D'arthrose sur des articulations classiques que tout le monde connaît, le genou, la hanche, mais aussi une articulation qui doit être une alerte, l'épaule. L'arthrose d'épaule, l'omarthrose n'est pas banale quand il n'y a pas de rupture de coiffe. Et donc là, on doit évoquer ce diagnostic. En réalité, c'est un acromégale connu qui va développer des douleurs ou des craquements d'épaule. Après, on peut avoir, dans les formes évoluées ou dans des formes qui se sont accompagnées d'un déficit en d'autres hormones, on peut avoir une petite perte osseuse. Mais les fractures vertébrales semblent exceptionnelles dans l'acromégale. En revanche, l'hypertrophie des différents tissus peut donner lieu à un certain nombre de manifestations rachidiennes, comme des lombalgies chroniques, des sciatiques, un syndrome du canal lombaire étroit, etc., etc.
Et est-ce que ces manifestations sont observables à l'imagerie ?
Alors, c'est un point important, car la radiographie standard est l'examen clé. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'atteinte de l'épaule, qui est assez particulière à l'acromégalie, ça se voit dans environ 40% des cas, dans des formes symptomatiques, on a des aspects d'ostéophyte, vous savez, cette production osseuse qui est une sorte de les cheveux blancs de l'articulation qu'on voit dans les arthroses digitales, facilement visibles et palpables, une nodosité des Berden ou de Bouchard. Eh bien, à l'épaule, on a aussi cet ostéophyte appendu à la partie inférieure de la tête humérale en goutte, comme une goutte. Alors la goutte, elle peut être une grosse goutte, car cette ostéophytose qui apparaît à la tête humérale, elle peut faire le tour de la tête humérale et alors donner un aspect de blocage, puisque vous avez une hypertrophie carrée contre une glaine arrondie. Et là, bien sûr, ça ne fonctionne plus. Cette hypertrophie radiologique s'observe aussi sur le cartilage. C'est le cas non seulement à l'épaule, mais aussi au genou ou à la hanche. On a une hypertrophie de l'interligne radiologique. Et puis toujours cette ostéophytose très particulière, très proliférante. À la colonne vertébrale, c'est pareil. On a une augmentation de la longueur de la vertèbre, puisqu'il y a une apposition de structures osseuses en avant de la vertèbre. Et donc, on a un aspect de vertèbre allongée.
Et dans ce contexte, professeur Lyoté, quand est-ce que le rhumatologue peut-il être impliqué dans cette pathologie ?
Alors, le rhumatologue peut être impliqué dans l'acromégalie d'abord en termes de diagnostic. Et vous avez vu, il y a souvent une errance diagnostique, c'est connu. On doit attendre 7, 8, 10 ans avant qu'un diagnostic d'acromégalie soit fait. Ce qui est très troublant, car je vous ai dit en préambule que le syndrome du canal carpien est précoce et il est réversible avec la cure de l'adénome. Ce qui fait qu'il y a des patients opérés d'un syndrome du canal carpien volontiers bilatéral plusieurs années avant qu'un diagnostic ait été porté. Donc, cette errance de diagnostic, elle peut aussi être réduite par l'avis du rhumatologue devant certains signes qui ne sont pas très simples à identifier, que sont le syndrome du canal carpien, on en a déjà parlé, mais également des arthralgies, des petites articulations des mains, donc pas très spécifiques, avec parfois un rythme inflammatoire, donc très trompeur. Vous savez que ces patients acromégales ont aussi des signes un peu cardinaux, ce qu'on a les céphalées, la fatigue, les sueurs. Et donc, on peut volontiers imaginer qu'il y a une maladie inflammatoire ou auto-immune, mais il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. On peut même avoir un syndrome de Raynaud, et vous imaginez qu'on puisse faire des faux diagnostics de maladies auto-immunes. Le fait est, c'est qu'il n'y a pas d'auto-anticorps, il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique, et la triade céphalée, sueur, fatigue doit évoquer, s'observe dans l'acromégalie. Donc, en association avec un syndrome du canal carpien, on doit évoquer l'acromégalie au même titre que d'autres maladies. Alors après, bien sûr, le rhumatologue, il va être interpellé quand il y a une arthrose, en tout cas une arthropathie acromégalique, genou, hanche, épaule ou autre. Et là, c'est la prise en charge standard d'une arthrose, avec volontiers des infiltrations radioguidées ou éco-guidées de dérivés cortisoniques pour soulager les patients. La prise en charge rhumatologique, elle va aussi dépendre de l'atteinte rachidienne. S'il y a une lombalgie, s'il y a une sciatique, un canal lombaire rétréci, et là, c'est une prise en charge standard.
Et pour limiter cette errance diagnostique dont vous avez parlé, professeur Lyoté, quels sont les symptômes clés qu'il faut avoir en tête et qui peuvent faire suspecter une acromégalie et sur la base desquels on pourra adresser le patient concerné à un centre expert pour confirmer le diagnostic ?
C'est une question qui n'est pas simple. Je l'ai déjà un peu esquissé. On se retrouve très souvent, pour nous rhumatologues, avec le tableau du syndrome du canal carpien. Et là, on recherche s'il y a une hypertrophie, une augmentation de taille des mains et des pieds avec les critères classiques. On peut aussi faire attention à la dysmorphie, au visage, puisqu'il suffit de regarder la radio, une ou deux radios antérieures, pour se rendre compte qu'il y a des petites modifications du visage. Ça peut être une première approche. Les arthralgies sont difficiles à prendre en compte, mais quand on a toujours les sueurs et la fatigue et un syndrome du canal carpien, on va l'évoquer. Donc, de toute façon, le rhumatologue, s'il y pense, ou le généraliste, s'il y pense, il se doit de doser l'IGF-1. Et une IGF-1 élevée ou très élevée doit conduire à prendre un avis de spécialiste endocrinien.
Et si on réagit trop tardivement, professeur Lyoté, quelles peuvent être les conséquences rhumatologiques d'un diagnostic trop tardif chez ces patients atteints d'acromégalie ?
On a rarement cette situation en réalité. On est plus, nous, rhumatologues, confrontés à des patients acromégales connus et largement traités, bien suivis par les endocrinologues. La main est à l'endocrinologue, c'est-à-dire qu'il doit poser la question à ses patients à chaque contrôle annuel, souvent en hôpital de jour, avez-vous des douleurs articulaires et où ? Avez-vous des craquements articulaires ? C'est très particulier à l'acromégalie. Et lorsque les gens ont une atteinte de l'épaule, une atteinte du genou, une atteinte de la hanche, avec ces symptômes de douleurs mécaniques, des douleurs banales d'arthrose, dans un contexte d'acromégalie, ça n'est plus banal. Il faut évoquer l'arthropathie acromégalique. Et là, il faut prévoir un suivi. Et le suivi peut être un suivi clinique, un suivi avec des questions très simples que l'endocrinologue va poser, et puis des radiographies standards. Nul n'est besoin de faire des scanners ou des IRM, ça ne sert à rien. Ce sont les radios standards. Alors bien sûr, on voudra être économe d'irradiation à rayon X, mais ça paraît tout à fait raisonnable d'avoir un suivi qui peut être annuel ou tous les deux ans de radiographie des deux épaules en rotation, phase 3 rotation, d'un bassin de bout de face ou des radios de genoux. Tout va dépendre après, bien sûr, des symptômes. Les conséquences, il faut y penser, il faut faire les radios, prendre l'avis du rhumatologue, et l'évolution naturelle, malheureusement, est découplée du bon contrôle de l'IGF-1, puisque une fois que le cartilage est touché, il évolue pour son propre compte. Il y a un débat actuel sur le contrôle de l'IGF-1 comme facteur limitant la progression de l'atteinte articulaire. C'est très débattu. Il y a des données d'échographie, mais qui ne sont pas répliquées. Donc, le problème est à la prothèse, c'est-à-dire qu'à un moment, la gêne et les traitements médicaux ne seront pas efficaces. La gêne sera telle qu'il faudra passer à la prothèse de hanche, la prothèse de genou ou même la prothèse d'épaule. Et dans mon expérience, j'ai fait poser plus de prothèses d'épaule à des patients acromégales qu'à des polyarthrites rhumatoïdes. C'est vous dire qu'on a quand même un petit décalage dans la qualité de la prise en charge de ces maladies articulaires. Ce qui est possible, et ça, on n'a pas de preuve formelle, c'est qu'un diagnostic précoce et un traitement précoce puissent réduire le risque d'évolution radiologique, d'évolution en tout cas clinique et radiologique des arthropathies acromégaliques.
Eh bien, merci infiniment, professeur Lyautey, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'acromégalie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.